dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus regarde, il appelle et il envoie. Nous pouvons méditer ces trois attitudes de Jésus tour à tour. Saint Matthieu nous dit, au début de l'évangile, « En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. » Il voit ces foules désemparées et abattues, ces foules qui sont fatiguées, qui sont désespérées, qui sont désorientées, qui sont sans repère. N'est-ce pas peut-être un peu la situation de notre monde d'aujourd'hui, nos contemporains qui cherchent une orientation, un sens à donner à leur vie. Et il nous dit que ces foules étaient comme des brebis sans berger. Et nous le savons, les brebis ont impérativement besoin de bergers, sinon elles errent dans toutes les directions. Dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, on nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Et si les brebis n'ont pas de berger, elles courent partout, elles se mettent dans des situations dangereuses et elles finissent aussi par être la proie des loups. » C'est aussi ce que nous disait dans l'Ancien Testament le prophète Ézéchiel au chapitre 34 quand il disait « Malheur aux bergers d'Israël qui ne font pas paître les brebis, elles sont disséminées par manque de bergers. » Et elles deviennent la proie des loups. Et Jésus aussi le dira dans le chapitre 10 de Saint Jean, que le bon berger s'occupe de ses brebis pour qu'elles ne soient pas la proie des loups. Alors Jésus voit ces foules. Il voit ces foules qui sont désemparées, qui sont désorientées, qui sont abattues. Et que fait-il en les voyant, en les regardant? Il n'est pas indifférent à leur misère, à leur souffrance. Il n'est pas apathique, où il n'est pas en colère, mais il est compatissant. Il est compatissant, il fut saisi, pris aux entrailles de compassion envers elle. Et nous savons que le mot compassion vient du latin cum, passion, qui signifie souffrir avec, ou du grec sun pateia, qui signifie la sympathie. Avoir de la sympathie aussi pour ceux qui souffrent, pour ceux qui connaissent des difficultés, souffrir avec eux. C'est ça finalement la compassion, c'est ce sentiment par lequel l'homme perçoit ou éprouve la misère et la souffrance de l'autre et la partage. Et nous le savons, c'est Jésus qui est le modèle de la compassion. Parce que lui ne va pas simplement se contenter d'éprouver de la compassion pour l'humanité souffrante, mais en se faisant homme, en s'incarnant, il va devenir lui-même la compassion de Dieu pour toute l'humanité, à travers la personne du Christ. Dieu se fait compassion vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et Jésus souffre de voir l'humanité se perdre loin de Dieu, parce que c'est finalement cela la plus grande des misères, c'est vivre loin de Dieu. Et la misère de ces foules, c'est le péché, c'est l'éloignement de Dieu qui conduit à la mort. Et nous le savons, Jésus aura, car il est vrai homme et vrai Dieu, mais il aura aussi des sentiments humains, il pleurera devant le péché de Jérusalem. Ces hommes qui s'éloignent de Dieu, il pleurera aussi devant la mort de son ami Lazare. Et finalement, c'est ça, oui, le péché, c'est s'éloigner de Dieu. Saint Augustin, lorsqu'il commente le psaume 70, le dit de manière remarquable à sa manière. Il nous dit « S'éloigner de Dieu, c'est se glacer. S'en rapprocher, c'est se réchauffer. S'en éloigner, c'est la nuit. S'en rapprocher, c'est la lumière. » Et Augustin continue en disant « Tout homme qui aspire à être semblable à Dieu, et c'est ce que nous désirons, parce que nous avons été créés pour lui, tout homme qui aspire à être semblable à Dieu, qui veut se tenir auprès de lui, de qui vient toute sa valeur, ne doit pas s'en éloigner, mais qu'il s'attache à lui afin d'en recevoir l'empreinte, comme la cire reçoit l'empreinte d'un anneau. » Plutôt que de vivre éloigné de Dieu, il nous faut nous approcher de lui, nous laisser attirer par lui, nous attacher à lui, afin de recevoir l'empreinte de l'amour de Dieu comme la cire reçoit l'empreinte d'un anneau. Et nous savons que cette empreinte, nous l'avons reçue de manière toute particulière le jour de notre baptême, lorsque nous avons été loin par le Saint-Crème, lorsque nous avons été marqués par le Saint-Crème. Et dans la première lecture que nous avons entendue dans le livre de l'Exode, on nous parle de ce royaume de prêtres, de cette nation sainte que nous sommes invités à former. Nous ne sommes plus des foules désemparées, nous ne devons plus être des foules désemparées, on a vu, mais une nation sainte, un royaume de prêtres qui a reçu l'empreinte de l'amour de Dieu dans son propre être, dans sa propre chair. Le psaume fait écho aussi à la première lecture. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Alors, quelles conséquences pour nous dans notre vie? Première conséquence, nous sommes consacrés. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes pas errants comme des brebis désemparées ou abattues. Et parce que nous sommes consacrés, que nous appartenons au Seigneur, nous ne nous appartenons plus. C'est ce que saint Paul dit aussi dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 6. Ne le savez-vous pas, votre corps, et on sait que quand saint Paul parle du corps, c'est toute la personne. Ne le savez-vous pas, votre personne entière est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Deuxième conséquence de cette compassion de Jésus, c'est que nous-mêmes, parce que nous avons été rachetés, parce que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, sauvés par lui, dans son sang rédempteur, eh bien nous aussi nous sommes appelés à devenir compatissants comme lui pour notre monde et apprendre à regarder le monde avec le regard de Jésus. Et devenir compatissant, ça s'apprend dans une relation personnelle avec le Seigneur. Et dans la contemplation de son cœur ouvert, il y a deux jours, nous célébrions la solennité du Sacré-Cœur, nous avons contemplé la grandeur, la profondeur de cet amour de Jésus pour chacun d'entre nous, et en continuant à contempler tout au long de notre quotidien l'amour infini de Dieu pour nous, nous pouvons nous aussi devenir compatissants pour le monde qui nous entoure, pour le monde dans lequel nous sommes, car nous sommes invités à aimer ce monde. Certes, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde et nous sommes invités à l'aimer tel qu'il est, avec le regard de Jésus. Saint Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui regarde ce monde avec mes yeux humains, mais c'est le regard du Christ à travers moi pour regarder le monde et aimer ce monde malgré ses imperfections, malgré le péché du monde et malgré tout ce qu'on voit jour après jour dans notre monde d'aujourd'hui. Donc demandons la grâce d'apprendre, en contemplant le cœur ouvert du Seigneur, cette compassion qui nous vient de lui-même. Que fait Jésus après avoir regardé les foules avec compassion? Et c'est sa deuxième attitude. Il appelle les 12. Après avoir regardé cette foule, il appelle les 12. Et en fait, s'il appelle les 12, c'est d'abord pour confier aux 12 ses brebis qui sont perdues, qui sont éloignées, qui sont souffrantes. Et cela implique plusieurs réflexions. La première, c'est que l'Église n'existe pas pour elle-même, pour sa propre utilité, mais l'Église existe pour les autres, pour le monde, pour les gens, surtout pour ceux qui sont fatigués et abattus. Je pense que vous connaissez le début de la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, que nous citons souvent, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent. Ces joies et ces espoirs, ces tristesses et ces angoisses sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Rappelons-nous toujours cela, et nous appartenons à l'Église. S'il existe, si l'Église existe, c'est d'abord pour les autres. Et si nous sommes baptisés, c'est pas d'abord pour nous, mais c'est aussi pour rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés et rachetés, mais aussi pour être témoins de l'amour infini de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, disait saint Paul. Deuxième remarque, la raison de l'appel des apôtres est de rendre présente et visible la compassion de Jésus pour les foules. Si Jésus appelle ses apôtres, c'est non seulement pour rappeler que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais aussi pour rappeler qu'à travers eux et à travers nous qui sommes baptisés, eh bien Dieu se fait présent à notre monde. Les apôtres, l'Église, existent pour que nous puissions expérimenter la proximité de Dieu. Dieu n'est pas éloigné de nous, Dieu n'est pas lointain, il se fait tout proche et il veut même venir habiter à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que les apôtres, on l'a entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, que les apôtres sont dotés du même pouvoir que Jésus. Jésus leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et cela, particulièrement dans les sacrements. Les sacrements qui sont ce toucher de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans les sacrements, il y a toujours une grâce de contact avec la matière qui est utilisée, l'eau pour le baptême, le Saint-Crème pour la confirmation, le pain et le vin pour l'Eucharistie. Un sacrement, il y a cette grâce de proximité, de ce toucher de Dieu pour chacun d'entre nous. Et vous savez que notre Père Saint-Augustin parle des sacrements comme d'un remède pour nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Et le Christ est appelé par saint Augustin le médecin de l'âme. Notre pape, Augustinien d'ailleurs, le disait dans son message de la Journée mondiale des malades le 11 février dernier. Il disait que être compatissant, et les 12 ont été appelés pour justement signifier cette compassion de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous, il disait être compatissant, c'est se faire proche. Ça ne dépend pas de la proximité physique ou sociale, mais de la décision d'aimer. C'est pas une question d'être loin, proche de l'autre, physiquement ou socialement, mais la proximité, nous dit le pape, dépend de notre décision d'aimer. Et il ajoute, aimer, c'est se donner. Nous le savons, c'est traditionnel, c'est sortir de soi. En cela, notre pape reprend les intuitions du pape François qui a beaucoup parlé de la compassion, de la tendresse de Dieu. Quand le pape François disait que le véritable remède aux blessures de l'humanité, c'est un mode de vie fondé sur l'amour fraternel qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. L'Église existe pour les autres et les apôtres ont été appelés, nous avons été appelés pour signifier, pour être témoins de cette proximité de Dieu dans le monde. Puis, Matthieu nous donne la liste des 12 apôtres. Et c'est assez intéressant de s'arrêter sur cette liste, car chaque nom est précisé de manière nominative. Ils ne sont pas cités à la cantonade, mais ils sont cités aussi avec leurs qualités, leurs défauts, leurs fragilités. On sait par exemple que Simon Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs. On nous dit que Matthieu était publicain, donc il était plutôt collaborateur avec les Romains. On nous dit que Simon était zélé, zélote. Lui, c'était plutôt l'inverse. Et pourtant, Jésus arrive dans son Église à rassembler des gens très divers, en soulignant aussi leurs limites, leurs défauts, leurs incapacités. Car Jésus nous appelle. À travers les apôtres qu'il a appelés il y a 2000 ans, il continue d'appeler chacun d'entre nous. Mais il ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, il nous appelle parce qu'il nous aime et pour que nous soyons des signes de son amour sauveur dans notre monde. Dieu n'appelle pas des hommes parfaits, il n'appelle pas des hommes capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Et il les nomme deux par deux, Matthieu. Il parle de Pierre et d'André, de Jacques et Jean, de Philippe et Barthélemy, de Thomas et de Matthieu. Et le fait d'être nommé de par deux, c'est très intéressant. J'allais dire, c'est même très augustinien. Dans nos propres constitutions des chanoines réguliers de Saint-Victor, on nous dit, et je cite, « L'Église est avant tout une fraternité rayonnante et non une juxtaposition d'individualité aussi remarquable soit-elle. » Et lorsque nous sommes appelés par le Seigneur, lorsque nous sommes envoyés deux par deux, c'est pas chacun avec ses propres qualités ou malheureusement ses défauts, mais c'est ensemble que nous sommes invités à évangéliser. Et c'est la troisième attitude de Jésus. Après le regard, après l'appel, c'est l'envoi. Et Jésus nous demande d'abord de prier pour que le Seigneur envoie et continue d'envoyer partout dans le monde. Et nous savons que la mission doit être universelle. Et pourtant, c'est étonnant, Jésus nous dit « N'allez pas jusque vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Est-ce que ça signifie une limitation dans la mission? En fait, la nature de l'universalité de la mission ne consiste pas seulement à aller partout, mais d'abord à rechercher ceux qui sont perdus, y compris à nos côtés, autour de nous. Nous pouvons regarder autour de nous dans notre quotidien, dans nos villages, dans notre travail, des gens qui sont en quête aussi de sens, qui semblent désemparés ou abattus. Et que sommes-nous invités à faire avec eux? Eh bien, Matthieu utilise cinq verbes. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Le premier verbe concerne le service de la parole. Il faut annoncer explicitement l'amour de Dieu. Et cette proximité de Dieu. Et les quatre autres verbes, on parle de libération. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Et tout cela, et ce sera ma conclusion, nous sommes invités à le faire gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parfois, on se demande si la gratuité est possible dans notre monde. Derrière une action, certains diraient, se cache toujours un intérêt. Et pourtant, rappelons-nous que toute notre existence est gratuité. Du premier jusqu'au dernier souffle, Dieu nous a créés gratuitement. Il nous a recréés gratuitement pour nous faire participer à sa vie divine en nous intégrant par le baptême à son peuple qui est l'Église. Alors, nous aussi, nous sommes appelés à devenir dans le monde le prolongement de l'amour gratuit de Dieu pour les hommes et les femmes de tous les temps. Et conscients d'avoir reçu gratuitement, nous sommes invités à nous engager gratuitement dans l'annonce du royaume de Dieu sans chercher à en mesurer les fruits. C'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. Devenons véritablement disciples et soyons gratuitement des témoins de son amour sauveur dans notre monde aujourd'hui.